de la parole de Dieu qui vont nous amener à réfléchir durant quelques minutes. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 17 et au verset 1er, nous lirons. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Riphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent : Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit : Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait : Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ? Moïse cria à l'Éternel en disant : Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse : Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, ça veut dire tentation et querelle, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant : L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ? Amen. Voilà. C'est d'actualité ce texte, hein ? Parce que il faisait chaud et ils avaient soif. Le peuple d'Israël était sorti du pays d'Égypte, où il était demeuré 430 ans en situation, position d'esclave. Et grâce à l'intervention divine, eh bien, ils avaient été arrachés du joug des Égyptiens, du joug de Pharaon. Et Dieu leur avait promis de leur donner en partage un pays où coulait le lait et le miel. Chez moi, on dit un pays de cocagne, un pays d'abondance. Mais entre le pays d'Égypte, d'où ils venaient de sortir, et le pays de Canaan qu'ils devaient rejoindre, il y avait, il y a toujours d'ailleurs, ce grand désert du Sinaï. Un lieu de sécheresse, un lieu où la chaleur est accablante, un lieu où les points d'eau sont rares. Et la parole de Dieu nous dit que au bout de quelques jours, de quelques temps, les problèmes d'intendance se sont posés. La soif. Ils étaient en plein désert. Quelque chose comme 2 à 3 millions de personnes. Plus les troupeaux, le bétail qui suivaient. Et vous imaginez que ce n'est pas quelques bouteilles d'eau minérale qui pouvaient suffire. Il fallait qu'il y ait une provision abondante d'eau pour désaltérer ce peuple. Mais justement, d'eau, il n'y avait pas. La soif, la soif. La soif, c'est un besoin impérieux et vital. Surtout, justement, comme c'était le cas pour ce peuple d'Israël, quand on est en plein désert et que la chaleur est accablante. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais paraît-il que quelques jours suffisent pour mourir de soif. On meurt plus rapidement de soif que de faim, rapidement par déshydratation, surtout par grande chaleur. Mais voyez-vous, au-delà de cette nécessité physiologique, boire, la soif, je dirais qu'il y a des soifs qu'un verre d'eau ou quelques verres d'eau fraîche ne suffisent pas à apaiser. Notre sœur nous a rendu témoignage de la façon dont Dieu l'avait secouru in extremis alors qu'elle était dans une situation de santé extrêmement périlleuse. C'est vrai qu'on peut dire que d'une certaine manière, quand on est malade, on a soif de quoi ? Même de guérison. L'Écriture nous parle d'un homme dans la ville de Jérusalem qui se tenait auprès d'une piscine qui avait la réputation d'avoir quelques vertus thérapeutiques. Et il y avait là, n'est-ce pas, des malades qui s'étaient rassemblés en grand nombre, attendant qu'un mouvement se produise dans l'eau de cette piscine, un bouillonnement, afin de s'y précipiter pour être guéri. Il y avait là un homme donc qui était malade depuis 38 ans. Moi j'aime bien cet homme, vous trouvez pas ? Malade depuis 38 ans, et il était toujours là, espérant qu'enfin son heure allait sonner d'être guéri. Mais ça ne venait jamais, et il avait toujours soif de guérison. Jusqu'à ce jour béni où le Seigneur est passé par là, et lui a adressé la parole en lui disant, veux-tu être guéri ? Quelle question ! Et cet homme, dans un premier temps, n'a pas fait mention tellement de son problème de santé, mais plutôt de son problème moral, voyez, de sa situation de solitude. « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi et jamais mon tour n'arrive. » Alors Jésus lui a dit, « Eh bien, prends ton lit et marche. » Et le miracle s'est produit. Après 38 ans d'attente, sa soif de guérison a été étanchée et cet homme fut guéri. Et je dirais aussi que on peut connaître la soif de certitude. Vous voyez, de certitude. Il y a des gens quand même qui sentent bien confusément que la vie, ça devrait être autre chose que ça, que manger, boire, dormir, travailler, prendre des vacances et puis recommencer sans cesse et sans cesse. Toujours le même cycle. Soif de certitude, soif de quelque chose qui pourra combler, qui pourra satisfaire leur être moral, spirituel. C'est ainsi que un homme qui avait pour nom Nicodème, un certain soir, est venu rencontrer Jésus. C'était un homme extrêmement religieux, extrêmement pieux, mais sa religion, avec toutes ses observances, ses prescriptions, ses commandements, ses principes et ses rites ne parvenaient pas à le satisfaire. Alors, entendant Jésus prêcher, parce qu'il l'avait certainement entendu prêcher, cet homme a senti qu'il y avait dans les paroles du Christ quelque chose que lui ne possédait pas. Il est venu le rencontrer, avoir un tête-à-tête, un face-à-face. Vous voyez, il ne s'est pas contenté d'un oui-dire. Il paraît que, on dit que, il se pourrait que, mais il est venu juger de visu, n'est-ce pas ? Et là, au cours de cet entretien, le Seigneur a été droit au but en lui disant tout simplement, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que de la même manière qu'un jour tu es né physiquement, tu es né à la vie organique, biologique, il faut également que tu naisses à la vie spirituelle, et que tu connaisses une profonde transformation dans ton être intérieur. Voici Nicodème, ça voulait dire, tu es un pécheur et toutes tes pratiques religieuses, tes actes de piété ne pourront pas régler le problème. Il faut que tu laisses le Seigneur œuvrer par son esprit en toi pour que tu deviennes un homme nouveau. Tel est le défi que Dieu nous lance. Si nous voulons connaître une nouvelle vie, une nouvelle forme d'existence, si je puis dire. Il ne s'agit pas d'avoir une nouvelle religion, c'est pas ça, mais c'est pas ça du tout. Si quelqu'un pensait quelque chose de ce genre, vous êtes complètement dans l'erreur. Ce n'est pas d'une nouvelle religion dont vous avez besoin, c'est d'une nouvelle vie. Et seul le Seigneur est capable de nous l'apporter et de combler notre cœur en étanchant notre soif de certitude. Tenez, à propos de soif, on pourrait parler de la soif du pardon. Des choses dans la vie, on se les reproche. Si seulement je n'avais pas commis tel acte, si seulement je ne m'étais pas comporté comme je me suis comporté, si seulement cette parole qui malencontreusement, maladroitement est sortie de mes lèvres, n'en était pas sortie. Ah ! Et voilà, maintenant je suis confronté à ma responsabilité, à ma culpabilité, à mon remords, et je ne sais pas comment m'en dégager. Soif de pardon. L'Écriture nous parle de cette femme qui, un certain jour, est venue pleurer auprès de Jésus. il prenait un repas chez un homme qu'il avait invité, un chef religieux notable. Et cette femme n'est pas venue pour jouer, comme on dit, les pique-assiettes, pour profiter gratuitement du repas. Mais elle est venue parce qu'elle avait soif de pardon. C'était une femme pécheresse, une femme de mauvaise vie, certainement une prostituée, elle avait mauvaise réputation dans le quartier, dans la vie, tout le monde la connaissait. Et cet homme religieux qui avait invité Jésus à sa table raisonnait en lui-même, se disant, mais si Jésus était vraiment un homme de Dieu, un prophète, il connaîtrait de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'était une, que c'est une pécheresse. Et Jésus savait parfaitement à qui il avait affaire. Et il savait que les larmes de cette femme exprimaient quelque chose, sa soif de pardon. Et au bout d'un temps, eh bien, le Seigneur s'est contenté de lui dire, maintenant va en paix, ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés. Vous savez, le péché, c'est une réalité sinistre qui nous concerne tous. Point n'est besoin d'être particulièrement pervers, d'avoir un comportement totalement amoral. Non, non, nous sommes tous des pécheurs. L'Écriture dit que, excusez-moi, mais c'est la Bible qui le dit, le meilleur d'entre nous, il est pire qu'un buisson d'épines. Voilà. L'Écriture dit que sur la terre, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Ça n'existe pas d'homme, de femme qui ne pêche jamais. Et donc, nous avons impérieusement besoin du pardon de Dieu. Car si nous comparaissons devant Dieu au jour du jugement en état de péché, alors malheur à nous, malheur à nous. Il n'y aura pas de place pour nous dans le ciel. Certains se rassurent en disant, oh, pas de problème. Certainement que lors de mes obsèques, on organisera une belle cérémonie. L'ecclésiastique de service prononcera quelques prières particulières. On manipulera peut-être le bouton sur mon cercueil. Et puis ça ira comme ça. Dieu va se satisfaire. Non, mes amis. C'est pendant que nous sommes bien vivants sur la terre des hommes qu'il nous faut faire la paix avec Dieu. Ensuite, nous l'avons chanté tout à l'heure, il sera trop tard. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que Dieu vous appelle à vous remettre personnellement en question. Pas nécessaire d'aller confesser ses péchés à un homme de religion, mais il est nécessaire de les confesser à Dieu. Il est nécessaire de réaliser que nous l'avons offensé, 100 fois plutôt qu'une, et que nous avons besoin de nous mettre en règle avec Dieu afin de recevoir son pardon. Si quelque chose pèse sur votre conscience, qui si un poids lourd, eh bien est là sur votre conscience, sachez que Dieu vous aime et il a préparé pour vous son pardon et sa miséricorde avec abondance. Et puis je dirais aussi qu'il y a soif de consolation. C'est vrai que la vie n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? C'est vrai que parfois, les larmes coulent. C'est vrai que nous sommes confrontés au deuil, à la séparation, à l'incompréhension, à quelques drames qui viennent nous frapper. On se pose des questions, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour que pareille chose m'arrive? Je n'avais rien fait de particulier. Mais c'est ainsi. Il y a comme un fardeau de malédiction qui pèse sur l'humanité tout entière depuis que nos premiers parents, Adam et Ève, se sont détournés de la voie que le Seigneur leur avait demandé de suivre. L'Écriture nous parle de cette femme qui était veuve, voyez, et qui maintenant eh bien, venait de perdre son fils, qui plus est son fils unique. Alors vous imaginez le désarroi de cette femme, sa tristesse, son accablement, son cœur brisé. Jésus s'approche. Cette femme ne pleure pas. Mais il ne se contente pas de dire ne pleure pas. Il agit pour sécher ses larmes. Il s'approche du cercueil, le touche. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et miracle, le mort revient à la vie. Peut-être d'une manière ou d'une autre ressemblez-vous à cette femme. Peut-être avez-vous enterré, je dirais, vos illusions, vos projets de succès, de réussite, de bonheur. Vous voyez, parfois, on démarre dans la vie plein d'espoir en disant « Ouais, ça va marcher !» Même des fois, quand on est jeune, on se dit « Moi, je vais réussir là où les autres ont échoué. » Et puis, les choses sont ainsi que les événements ne prennent pas la direction que l'on aurait souhaité. Alors, un peu comme cette femme, on marche tristement derrière le cercueil de nos illusions perdues, disons-le comme ça. Mais si vous en étiez là, De la même manière que Jésus a ressuscité ce garçon que sa mère venait de perdre, Jésus peut ressusciter en vous mieux que l'espoir. Il peut ressusciter l'espérance. Si vous mettez votre foi en lui, si vous mettez votre confiance en sa personne. Et à propos de soif, je terminerai en disant qu'il y a la soif de salut. La soif de salut. Un philosophe a dit, l'homme est un animal religieux. Voyez ? La Bible dit d'une autre manière, mais ça veut dire à peu près la même chose, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. On ne peut pas s'empêcher de penser que quand c'est fini, c'est pas si fini que ça, qu'il y a autre chose après. Je me souviens de cet homme, de ce chrétien que nous connaissions à Carcassonne, qui était un baroudeur, il avait fait la guerre, et il me disait, vous savez, quand ça mitraillait de partout, quand les coups pleuvaient, les obus et tout le reste, mes gaillards, et pourtant ça ne devait pas être des temps, savez quoi ? Eh bien, il se mettait à prier pour être secouru. Dans ces moments où le danger nous tient de près, la pensée de l'éternité se réveille en nous. Voyez ? Eh bien, n'attendez pas à naître dans une situation aussi extrême pour penser à votre éternité. L'Écriture dit ceci, un conseil judicieux, écoutez-le, ce n'est pas le mien, mais c'est celui de la parole de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'Écriture nous parle de ce qui s'est passé pour un geôlier, un gardien de prison. On avait mis en prison à tort, bien sûr, c'était un temps de persécution. Deux apôtres du Seigneur, Paul et Silas, ils étaient là, et au lieu de se lamenter sur leur sort, ils chantaient les louanges de Dieu. Alléluia! Les chrétiens dans l'épreuve doivent pouvoir continuer à chanter les louanges de Dieu. Tant et si bien que, en réponse à leurs prières et à leur foi, les murs de la prison ont tremblé. Les portes des cellules se sont ouvertes avec fracas. Les liens qui retenaient captifs, les détenus se sont détachés. Le geôlier s'est réveillé en sursaut, voyant les dégâts. Il se dit, malheur à moi, on va me demander des comptes. Il n'y a pour moi qu'une solution, en finir au plus tôt. Et dégainant son arme de service, il allait se précipiter dessus pour se suicider. Paul l'a arrêté. Arrête, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Cet homme s'est jeté au pied de l'apôtre en disant, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voilà la question primordiale. Voilà, mes amis, le point capital où Dieu voudrait vous amener à vous poser cette question. Que dois-je faire pour avoir la certitude qu'un jour, j'irai dans le ciel? Non pas un petit espoir à l'eau de rose, non pas peut-être, j'espère, il faudrait bien que, mais je suis maintenant en paix avec Dieu et je sais qu'il m'a préparé une place. Comment arriver à posséder une telle certitude? Et l'apôtre Paul répondra, bien, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mes amis, c'est de cela dont vous avez besoin pour recevoir la vie éternelle, le pardon de vos péchés dont nous parlions il y a quelques instants, recevoir la grâce de Dieu qui est capable de transformer le cours de votre destin. Je vais conclure en disant que là, dans le texte que nous avons cité en préambule, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple était là, pressé par la soif. Pressé par la soif. L'expression est forte. Moïse s'est tourné vers Dieu, parce que tout prophète qu'il était, il n'était qu'un homme. Que ferais-je, Seigneur? Et Dieu a indiqué la solution. Prends ton bâton. Dirige-toi vers ce rocher. Frappe-le. Frappe-le. Et du rocher frappé, l'eau jaillira. Et mes amis, elle a jailli en abondance, puisque 2 à 3 millions d'individus et leurs troupeaux avaient ont été désaltérés, abreuvés. Leur soif a été satisfaite. Ça nous rappelle quelque chose, cette histoire du rocher frappé. Quelqu'un a été frappé, vous savez. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Où ? À la croix du calvaire. Il a été frappé par la justice divine. Lui qui était innocent, pur, saint, sans tache, sans péché aucun. L'Écriture, la Bible nous dit que Dieu a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Et sur la croix, il subit le coup de la justice divine afin que nous puissions être épargnés, sauvés, graciés. Si tu crois, c'est tout. Si tu crois qu'il a fait ça pour toi aussi, tu seras sauvé. Il n'en demande pas plus. Ouvre ton cœur à la grâce du Seigneur. cet après-midi, avec les mots qui sont les tiens, nous allons avoir quelques instants de prière. Invoque son nom. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Moi aussi, j'ai soif. Peut-être de guérison. Peut-être de certitude. Sûrement de pardon. Peut-être de consolation. En tout cas, de salut. Eh bien, je viens vers toi et je te prie de me désaltérer. De me désaltérer. Il y a quelques paroles de Christ à ce sujet que j'aimerais vous citer en terminant ces moments. Dans l'évangile de Jean, justement, assis au bord d'un puits, Jésus engageait la conversation avec une femme qui venait puiser de l'eau à ce puits. Et Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et puis il ajoutera, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voyez, Seigneur Jésus possède cette source intarissable. Il est lui-même la source qui désaltère notre vie tout entière. Dans un autre passage, le Seigneur Jésus, s'adressant à la foule, dira « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur, comme dit l'Écriture. » Pour vous désaltérer, pour que votre vie soit rafraîchie à tous égards, il vous faut venir à Jésus. Engagez une démarche de foi, de confiance, et la bénédiction de Dieu sera votre partage. Que son nom soit loué. Prions-le quelques instants, voulez-vous ?